territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
No macadam.
L'autorisation environnementale du préfet, une autorisation à détruire la nature, les espèces protégées, les zones humides et tous les lieux riches sur le tracé. Et on appelle ça autorisation environnementale.
Mais en fait, les illégaux, c'est plutôt les porteurs de projets. Donc, il y a eu des actions illégales qui ont été faites, légitimes.
C'était en réponse à des actions tout aussi illégales. Là où ils allaient commencer les travaux, ils n'avaient pas les autorisations nécessaires. On se demande s'ils sont dans la réalité, ces gens. On nous dit que nous, on est des utopistes, mais eux, vraiment, je me demande dans quel monde ils vivent. Ça va faire mal parce que tout ce qu'on pourrait entamer aujourd'hui pour essayer de freiner un peu la crise climatique, ou en tout cas les dégâts qu'on va tous subir, chaque jour où on ne fait rien, ça va être encore plus dur, quoi.
On est criminalisé. On ne fait pas exception à toute autre lutte écologique. Donc on est scruté, les réseaux sociaux, on a été fiché, les plaques d'immatriculation ont été prises en photo. On fait l'objet d'une surveillance accrue. On entre en résistance et ça ne plaît pas au pouvoir en fait.
No macadam.
No macadam, c'est pas un cri de guerre, c'est au contraire un cri de paix. Paix pour la nature partout agressée, notamment à coup de grands projets autoroutiers inutiles, comme on va aujourd'hui le voir avec la lutte contre le déplacement en zone naturelle de la route nationale 88 entre le Pertuis et Saint-Austien, en Haute-Loire. Et des histoires à la RN 88 qui ressemblent à celles de l'inutile à 69, il y en a aux quatre coins de la France. Ce projet de détournement de la RN 88, c'est en prévision presque 11 km d'une deux fois deux voies. Impact, 190 hectares de terres artificialisées, dont des terres agricoles, de la forêt et 25 hectares de zones humides. C'est aussi un cycle de l'eau entravé, voire détruit. C'est encore 75 espèces d'animaux protégées, menacées, et des paysages saccagés et scarifiés par des tranchées de 30 à 40 mètres de profondeur par endroit. Coût estimé en 2019 par les promoteurs, 226 millions d'euros. Coût estimé en 2025 par les opposants, au moins 400 millions d'euros. Les opposants, ce sont notamment des membres de France Nature Environnement, mais aussi du collectif de la lutte des sucs, de l'OTA, l'association des usagers des transports en commun d'Auvergne, ou encore de SOS Loire Vivante, dont cette émission vous a déjà raconté la lutte victorieuse. Dans une région qui a fait le choix du tout bagnole et tout camion, et le petit monarque de cette région s'appelle Laurent Vauquier. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et pour votre radio libre préférée. Fin août 2025, rendez-vous avec des membres de FNE 43 et du collectif de la lutte des sucs dans le petit bourg du Pertuis, traversé par la Nationale 88.
Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Guillaume Charmasson, président de France Nature Environnement Haute-Loire.
Bonjour Charlie.
Bonjour. Je suis militante à la lutte des sucs depuis plusieurs années.
Qu'est-ce que c'est les sucs? Ici donc on est en Haute-Loire, département 43. Comment pourrait-on décrire ces sucs? C'est pas ce qu'on met dans le café quand on aime ça.
Eh non, non, bien qu'on pourrait dire qu'on veut pas de sucre en poudre. Mais le suc, en fait, c'est une structure géologique. C'est un sommet volcanique qui est caractéristique de la Haute-Loire. Et notamment de la région du Velay, donc du Puy-en-Velay. Et voilà. Donc en fait, ça se présente sous la forme d'un piton ou d'un dôme avec des pentes fortes. Et donc c'est un paysage caractéristique fait de hauts plateaux et de pointements isolés. Ce paysage est fortement menacé par une déviation qui est voulue par la région Auvergne-Rhône-Alpes, par notamment Laurent Vauquier, le long de la RN 88. Pour ce faire, il va falloir creuser dans ces sucs pour rattraper des pentes. Donc effectivement, les sucs sont en danger.
RN 88, c'est assez fascinant parce que qu'on parle de la RN 88, qu'on parle de la D924, qu'on parle de la 69, j'ai l'impression qu'à chaque fois on parle de la même histoire. Il y a des promoteurs, des bétonneurs qui passent en force sans se soucier de ce que la loi pourrait dire. Et puis, on impose des grands projets inutiles. On met les citoyens et les citoyennes devant le fait accompli. Heureusement, de temps en temps, il y en a des citoyens et des citoyennes qui réagissent. On l'a vu là sur la D924 dans l'Orne, le tribunal administratif a déclaré la non-utilité de ce projet. La même chose sur la 69. Et là, j'ai l'impression que c'est encore la même histoire et qui se répète non seulement avec vous, avec cette RN 88, mais partout sur le territoire métropolitain.
En effet, ouais, on constate qu'il y a, je sais plus, une cinquantaine plus de projets routiers en France là en ce moment. Malgré le contexte de crise climatique, on continue à vouloir promouvoir le tout voiture en France. Et on met les citoyens devant le fait accompli, comme tu dis. En plus, on divise la population. Les politiques comme Laurent Wauquiez en profitent, ils font du populisme là-dessus. Tout ça pour juste satisfaire quelques ambitions politiques et économiques en fait.
C'est les mêmes façons de procéder, c'est les mêmes arguments. C'est le désenclavement, la sécurité, et ça on le retrouve dans tous les autres projets routiers et autoroutiers qui sont menés en ce moment. Et les mêmes façons de procéder dans le sens où il y a de la fabrique de consentement, il y a zéro réunion publique, on ne demande pas l'avis aux gens. Ça se retrouve à travers tout le paysage. Et nous, on l'a fortement constaté, notamment lors de la création de la Déroute des routes. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis autour de la table, nous, collectifs locaux en lutte contre des projets routiers, de toute la France, de Nîmes à Caen, en passant par les Alpes. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on vivait les mêmes choses. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait se filer la main sur des recours, sur des contre-argumentaires, sur des façons de procéder qu'on a pu utiliser les uns les autres.
La Déroute des routes, c'est un ensemble de collectifs qui rassemble toutes les luttes contre ces grands projets routiers inutiles.
C'est ça, c'est une coalition de luttes locales contre les projets routiers et autoroutiers. La principale chose qui nous rassemble, c'était de demander un moratoire contre tous les projets routiers et autoroutiers, quels qu'ils soient, sans hiérarchiser, à l'échelle nationale.
Parler de ce qui se passe dans votre coin de Haute-Loire, c'est finalement parler de ce qui se passe sur tout le territoire national. Comment ils vous vendent le truc? Vous allez gagner 3 minutes?
C'est à peu près ça. Pour le contournement de ces deux communes, donc le Pertuis et Saint-Austien, on va faire un contournement de 11 km qui permettra de faire gagner, selon la région, 3 minutes. En réalité, ça sera plutôt 1 minute d'ailleurs. Pour ça, il faudra quand même faire 16 ouvrages d'art, puisqu'il va falloir mettre une route à niveau en fait. On va artificialiser 190 hectares, notamment 140 hectares de forêts et de champs, et plus d'une quarantaine d'hectares de zones humides. Sur ça, on rajoute qu'on va excaver plus d'1,1 million de mètres cubes de terre qui vont être ensuite remis sur des champs, enfin, puisqu'ils n'ont pas la maîtrise foncière de partout. Ils vont remettre ces matériaux excédentaires, comme ils appellent, dans des zones prévues à cet effet, qui sont en fait des champs agricoles. Certains agriculteurs ont consenti à faire enlever leur terre arable pour mettre la terre excavée dessous, puis remettre la terre arable par-dessus. Ils pensent pouvoir recultiver comme avant. Bon, j'ai des doutes sur la méthode.
Donc une personne vient de se joindre à nous à table. Bonjour Louise, tu viens de t'asseoir avec nous avec un café autour de cette table, puisque tu fais partie aussi de France Nature Environnement.
Oui, je fais partie de France Nature Environnement et je suis extrêmement malheureuse par rapport à ce projet qui va abîmer notre région, je dirais même ma région, puisque j'y suis depuis des générations. Mes parents sont agriculteurs. Et c'est très très douloureux, j'ai le cœur qui saigne, je dirais très fort, à chaque fois que je vois les pelleteuses abîmer la terre pour un projet qui manifestement ne tient pas trop la route. On va gagner peut-être quelques minutes, mais pour faire quoi? Au détriment des agriculteurs. Moi je fais partie des gens qui sont propriétaires. Ma famille a été expropriée de près de 10 hectares. Tout le patrimoine agricole de mes parents, maternels et paternels, qui étaient agriculteurs. Des petits agriculteurs, comme il y en avait beaucoup, hein. Ils avaient une dizaine de vaches, ils labouraient des terres agricoles, ils vendaient leurs pommes de terre.
Qu'est-ce qu'elle devient l'exploitation de tes parents?
L'exploitation n'existe plus parce que mes parents sont décédés. Ma famille n'exploite plus ces terres, mais elles ont été prises de leur vivant et je sais la souffrance que ça a représenté à l'époque quand on leur a dit on va prendre vos terres pour la route. Et cette nouvelle enquête publique où on va encore saisir des terres, et ben moi j'ai une petite pensée émue pour ces gens qui sont propriétaires de terrains, qui ne sont pas forcément agriculteurs, hein, mais qui sont attachés à ces terres agricoles et qui savent qu'on va leur les prendre pour y mettre du remblai. Je trouve que c'est très violent comme projet et pas très cohérent. Pour l'instant, la terre est prise puisque les expropriations ont été faites, mais il va y avoir des travaux qui vont se faire. on va encore me prendre du terrain, la terre agricole, pour pouvoir mettre du remblai, parce qu'ils vont incurver la montagne sur, je ne sais plus si c'est une vingtaine de mètres. Donc il va falloir enlever tout ce remblai, le mettre où ? Eh bien, on prend les terres agricoles, on va aplanir tout ça, et puis on va mettre un petit peu de terre agricole dessus, on fait planter un arbre. Entre nos zones humides qui disparaissent, tous nos petits murs en pierre, qui font partie de notre patrimoine local, qui disparaissent et qui ne seront pas remplacés, parce que ce que j'ai bien compris, c'est qu'ils vont ramener des pierres, ils vont faire des tas de pierres, mais ce ne sera pas des murs reconstruits. Donc l'eau ne va pas s'irriguer comme elle s'irriguait auparavant. C'est une catastrophe écologique grave qui m'affecte énormément.
Ces petits murs de pierre qui bordent les chemins, moi je pensais que ça servait aussi à tenir les coteaux, à faire que la montagne ne s'écroule pas, mais je n'avais pas compris que ça servait aussi à retenir et à stocker l'eau. Ce qui veut dire que si on démolit ces ouvrages, l'eau qui était retenue avant ne le sera plus.
On a un terrain qui n'absorbe pas l'eau. Donc notre eau en surplus va soit dans les zones humides, soit dans les petits murs. Mais la terre ne fait pas l'effet d'une éponge en quelque sorte. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que les zones humides qui sont extrêmement utiles sont saccagées et les petits murs aussi. Donc la terre, oui, effectivement, elle va s'évacuer, elle va couler. Et il y aura effectivement des glissements de terrain, des choses comme ça.
Ça devrait coûter combien ce détournement de la RN 88 ?
226 millions d'euros en 2019. Aujourd'hui, on estime à 500 millions d'euros, sauf qu'à la dernière enquête publique, ils n'ont pas voulu nous donner le chiffre actualisé. À la dernière réunion publique, du coup, il a été annoncé le chiffre de 2019. Donc, ils sont restés sur le chiffre non actualisé, suite à l'inflation qu'on connaît, post-guerre en Ukraine, coût du bâtiment, etc. Tout a augmenté. Mais non, ils nous ont annoncé le même chiffre, 226 millions d'euros. Ils sont restés droits dans leurs bottes. Quand ils ont dit ça, mais tout le monde s'est interrogé.
Donc, il y a une autre estimation.
Si on prend en compte toute cette inflation de 30%, on peut arriver facilement à 400-500 millions d'euros minimum. On compte en plus les travaux supplémentaires qu'ils n'avaient pas prévus dans le dossier initial, la maîtrise foncière qu'ils n'avaient pas. Voilà. Donc on est loin de la réalité, mais ils nous cachent tout, quoi. Ils cachent tout aux habitants aussi. C'est ça qui est grave quand même. Surtout pour un projet qui est à la base de 226 millions d'euros. Là, avec l'inflation, avec les retards pris, grâce à nous, en fait, puisqu'on a réussi à faire stopper le chantier, puisqu'il faut d'abord qu'ils fassent les mesures compensatoires pour continuer le chantier. Donc, mesures compensatoires, c'est quand on dégrade un milieu pour un projet routier, on doit compenser. C'est grâce, en fait, à notre recours en justice. On a perdu, si on veut. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a quand même acté qu'il fallait, avant la reprise des travaux, que toutes les mesures compensatoires soient entamées, en tout cas, ou qu'ils aient l'acquisition foncière des mesures compensatoires qu'ils vont faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les habitants s'impatientent de voir les travaux qui ne bougent plus depuis plus d'un an.
Quelqu'un vient d'arriver. Bonjour Jean-Jacques. Tu es de France Nature Environnement aussi ?
Je suis le président fondateur, mais maintenant le président est Guillaume.
Cette histoire de la RN 88, quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois ? C'est une deux fois deux voies, non ?
Alors les premières fois, c'est dans les années 85-90 à peu près.
Projet.
Au départ, c'était une route qui devait relier Lyon à Toulouse et au-delà de Lyon-Toulouse, l'Allemagne à l'Espagne. C'est une grande liaison d'aménagement du territoire. Et donc c'était l'époque où on pensait que les autoroutes allaient se développer, qu'on allait aller jusqu'au bout des logiques capitalistes du moment, et aujourd'hui on a changé. Dans la mentalité de beaucoup de gens, il faut arrêter de mettre l'argent sur des choses inutiles et qui détruisent la nature en plus. La logique actuelle, mais qui n'était pas celle des années 85, 90 et 2000 et un peu après, c'est éviter, réduire, compenser. Éviter, ça veut dire que quand on veut créer un aménagement routier, on va éviter de détruire la nature le plus possible. Réduire, ça veut dire que si on a un projet, et bon, on va voir tout ce qui peut réduire cet impact négatif sur la nature. Et compenser, ça veut dire que si on est obligé de faire un aménagement, routier par exemple, il va falloir proposer des zones à proximité immédiate qui permettront à la faune dont les habitats seront détruits de pouvoir aller se réfugier. Et les trois mots éviter, réduire, compenser ont été complètement mis de côté. C'est la région qui a pris les décisions. Une manipulation, puisqu'en fait c'est une route nationale, il faut quand même le savoir, c'est la RN 88. Ce qui veut dire que c'est à l'État de prendre en charge le financement de ces routes et les collectivités territoriales, que ce soit la région, le département, la commune, peuvent aider. Et là, ça a été le contraire. Cette route a été décidée dans les années 80 et 90. Ce projet est venu en relation avec cette grande liaison d'aménagement du territoire vue au niveau national et international. Il s'agissait de doubler la 7, Lyon, Montpellier, Toulouse et l'Espagne, qui est commencé à être encombrée par une autre qui passerait par le Massif central, qui serait aussi à quatre voies. Il y a eu quatre tracés qui ont été envisagés, et il y en a un qui a été élaboré, réfléchi, pensé par la direction départementale de l'équipement, la DDE, qui à l'époque était l'outil de l'État au niveau des routes. Et ils avaient proposé, pas ce tracé du tout, mais un autre tracé, qui évitait les zones agricoles, enfin pas entièrement, mais beaucoup plus que celui-ci, et éviter de passer dans des zones à une valeur écologique forte. Toutes les vallées qu'on voit ici maintenant avec un viaduc projeté de 130 mètres, je crois, viaduc du Rodez, alors qu'il y avait une possibilité qui était beaucoup plus douce et qui passait par des terrains moins à fort impact. Et ce n'est pas ce tracé prévu par la DDE, ce qui au niveau national est une première, qui a été présenté à l'enquête publique comme étant le meilleur. Ça a été celui retenu par un président du Conseil général qui était par moments ministre, qui a été commissaire européen et qui avait un peu les pleins pouvoirs, qui a proposé un autre tracé qui dérangeait moins ses amis politiques, maires de telle et telle commune. Donc c'est ce projet qui a été retenu, mais c'était le moins bon au niveau agricole et protection de l'environnement. Ce projet, il a été mis de côté par l'État, puisqu'il y avait 10 ans avec une déclaration d'utilité publique en 1997 pour le mettre en œuvre. Et la DUP, la DUP, déclaration d'utilité publique, est valable 10 ans. Alors pendant ces 10 ans, ils ont fait des expropriations, mais au moment de le mettre en œuvre, ils ont jugé que c'était beaucoup trop cher, que ce n'était pas un bon tracé, et ça a été mis complètement sous le coude de 1997 jusqu'en 2019. Et là, le président de la région a ressorti ce dossier parce qu'on est quand même redevenu un peu en féodalité en Haute-Loire. Il y a le seigneur, il y a les vassaux et puis il y a le peuple. Les vassaux, ils obéissent au seigneur. Ce sont tous les maires et tous les élus du département qui dépendent de la région quant à leur financement. Donc s'ils font un écart par rapport à la volonté de la région, eh ben, ils ont suppression des subventions. Donc tous les maires du département, ou presque, se sont alignés derrière le grand seigneur, d'ailleurs on l'appelle le seigneur des panneaux aujourd'hui. Donc ce dossier a été ressorti des cartons parce que le président de la région voulait bien rester à la région et c'était un dossier emblématique, montrer qu'on est puissant, de vouloir relier Yssingeaux au Puy et donc Lyon au Puy avec une deux fois deux voies. La région dit toujours que ça permettra de relier à quatre voies Saint-Étienne au Puy. C'est totalement faux, comme beaucoup de ce qu'ils disent, parce qu'en fait, il reste deux viaducs, un à quelques kilomètres d'ici du Pertuis, qui s'appelle le viaduc du Ramel, et un peu plus loin, il y a le viaduc du Lignon, à deux fois une voie. Et contrairement à ce qu'il est dit, il n'y a jamais eu de bouchon à l'entrée de ces viaducs, parce qu'on passait à deux fois une voie. Donc ce projet est resté tel qu'il avait été prévu en 1997, quand la région l'a ressorti en 2019 pour le présenter à une enquête d'utilité publique qui a eu lieu en 2020. D'ailleurs, cette enquête elle a été faite du 15 juillet au 14 août. Une bonne manière de sensibiliser la population, de faire ça pendant les périodes de vacances où les gens sont ailleurs. Elle est restée telle qu'elle. Alors que depuis les années 90 jusqu'à 2020, il s'était passé pas mal de choses. D'une part, cette logique de construire toujours des autoroutes, on prenait de la distance avec. Et d'autre part, les lois même avaient complètement changé et la protection de l'environnement était bien supérieure en 2020 à ce qu'elle était dans les années 90. Et au lieu de faire évoluer, de faire une nouvelle demande de déclaration d'utilité publique, un nouveau projet, ils ont pris textuellement le projet de 1997, totalement inadapté à la situation actuelle. Et j'en reviens au grand principe, éviter, réduire, compenser. Le préfet de l'époque avait même pris la décision de réaliser les mesures compensatoires après la réalisation de la 2x2 voies, alors que, d'après les lois en vigueur en 2020, les mesures compensatoires doivent être réalisées avant. Bon, admettons qu'il y ait des tritons crêtés ou des espèces protégées, c'est de leur permettre de regagner ces zones qui sont à proximité de l'aménagement. Et là, ben, ils auraient été faits une fois que la 2x2 voie a été totalement terminée. Et donc, c'est ce qui a été retoqué par le tribunal administratif, complètement banalisé par le conseiller de la région. Et ils ont dit qu'ils avaient gagné au tribunal administratif. On voit bien que le projet, il est arrêté, il est comme suspendu.
2 ans qu'il n'y a rien eu sur le tracé. Ils ont fait les 3 ponts, et après ça s'est arrêté là. Ils ont repeint les piquets en jaune, ils entretiennent les passages grande faune et les passages petite faune, mais ils ne font plus rien depuis 2 ans.
Il n'y a pas beaucoup des zones de mesures compensatoires qui sont à proximité du tracé. Ils ont acquis des terrains pour faire les mesures compensatoires très éloignés du tracé en fait. Donc la faune qui va être détruite sur place ne sera pas à 50 km de là.
Est-ce qu'on peut compenser, par exemple, la destruction d'une zone humide? Tiens, on détruit une zone humide ici, on va en recréer une là, ça marche comme ça?
Pas du tout.
Quoi, on met un peu de remblai, on plante un arbre dessus et ça y est, on compense quoi.
On prend une plantation d'épicéa, on appelle ça une zone humide. Or, le sol, il est acidifié, il va mettre des dizaines d'années à devenir une vraie zone humide, si tant est qu'il le devienne un jour. Mais j'en reviens toujours à l'éviter, réduire, compenser. Compenser, c'est la dernière mesure quand on a évité et réduit. Et là, on n'a ni évité ni réduit.
Ce que tu es en train de dire de manière diplomatique, là, c'est que ces gens sont dans l'illégalité, en fait. Enfin, ils se foutent des lois et des règles.
Oui, oui, par rapport aux mesures compensatoires, par exemple, c'était évident. Non seulement la région, mais la région a fait pression sur le préfet. Et le préfet était aussi dans l'illégalité. Et c'est pour ça que le tribunal administratif l'a retoqué et a fait changer, donc au mois de décembre dernier, a fait changer l'arrêté du précédent préfet pour que les mesures compensatoires soient réalisées avant.
Les mesures compensatoires, c'est des autorisations à détruire, en fait. C'est une obligation légale pour faire passer un projet en force. Et une zone humide à un endroit donné, tel qu'il y en a plein sur le projet, elles ont un rôle écosystémique très précis. Donc, de les mettre à 25 km plus loin ou à 40 km plus loin, elles ne rempliront plus ce rôle qu'a décrit d'ailleurs Louise très très bien. Chez nous, là, dans notre région des Sucs en Haute-Loire, il n'y a pas de nappe phréatique. Donc il faut vraiment ralentir l'eau qui coule depuis le haut des Sucs, qui coule goutte à goutte, qui passe pierre après pierre, effectivement avec les murets, mais aussi avec tous ces tas de gros cailloux qui constituent les anciens volcans, là, les Sucs, goutte à goutte, et elles vont tomber dans les bas-fonds, dans les zones humides. Donc si on supprime ces zones humides-là, on supprime toute notre ressource en eau, vu les sécheresses à répétition qu'on subit et qui sont les moindres par rapport à ce qu'on va subir les prochaines années, c'est extrêmement grave. Si on détruit 1 hectare de zone humide, on doit compenser le double, c'est-à-dire qu'on doit fournir 2 hectares de zone humide, mais en fait c'est largement insuffisant.
C'est quoi l'ampleur de la destruction annoncée si jamais ce projet mortifère se fait?
On est à peu près à 200 hectares et il y a 150 hectares de mesures compensatoires à réaliser, ce qui ne s'est jamais vu en France. Là aussi, c'est une première. C'est-à-dire qu'il y a 150 hectares de surface de tracé et il faut reconstruire 150 hectares de zones humides. Nulle part on a vu ça.
Je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'on est dans un problème écologique dramatique. On va être sinistrés, on va perdre nos sources d'eau, on va perdre nos petits murets, on va avoir des déboulements de terrain. Les gens du coin ne réalisent pas l'ampleur des dégâts.
Ce qui me fait rager personnellement, c'est quand même que les habitants des 2 communes ne se saisissent pas majoritairement du problème, quoi. Laver le cerveau avec la propagande de la région, de Laurent Wauquiez. Cette propagande-là, on voit qu'elle a bien infusé dans la population et nous, on est les méchants éco-terroristes. Alors que les vrais éco-terroristes, c'est ceux qui saccagent tout, là.
Les gens sont relativement égoïstes parce que quand on regarde les avis des personnes pour, mais c'est complètement dérisoire. On attend 3 minutes pour traverser la route pour aller de l'autre côté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, ça reste extrêmement égoïste, personnel, au détriment de l'écologie et au détriment du bien commun.
Puis d'emblée, on a fait des mesures qui permettaient de maintenir une vie dans les 2 villages et de ne pas tout détruire la nature entre le Pertuis et Saint-Austien. On a fait plein de propositions. Déjà, on pouvait aménager les 2 bourgs, aussi bien Saint-Austien que le Pertuis. Depuis 30 ans, il n'y a été rien fait. Les traversées des 2 bourgs sont en l'état. quand une nationale visée internationale traverse un petit village, ben généralement, on fait des aménagements. Il peut y avoir un feu rouge, il peut y avoir une zone 30, il peut y avoir un passage souterrain sous la route, une traversée pour les voitures aussi qui passent au-dessus, et des passages piétons. Alors que là, moi j'ai déjà essayé de traverser, c'est effectivement difficile parce que les gens, ils sont sur la nationale, ils y vont quoi. Il n'y a eu aucun aménagement de fait dans les deux bourgs dont on parle depuis que le projet est en piste en fait. Je pense qu'ils ont dû se dire on va rien faire, comme ça, ça sera de plus en plus le chaos pour traverser. Et du coup, ils seront tous pour la route. Et il y a une propagande qui est entretenue par des cabinets de communication, mais c'est des cabinets de propagande, qui font que les gens, ils adhèrent petit à petit à l'idée que, bah oui, on peut bien faire quatre voies pour aller de Pertuis à Saint-Austien, ça pose aucun problème, quoi. Même l'autorité environnementale, c'est un groupe d'experts au niveau national, nommé par le ministère de l'Environnement, pour étudier tous les projets à fort impact au niveau environnemental. Et ils ont dit, mais la première chose pour éviter tous les massacres, il aurait très bien été possible de faire des contournements légers à deux fois une voie, des deux villages, voire même sur le tracé, au pire, le tracé actuel, de le faire à deux fois une voie et pas à deux fois deux voies, parce que l'impact sur le territoire, il est 50 fois moindre.
Ils ont usé de beaucoup de stratégies mensongères par omission. Les porteurs de projets ont délivré les informations au compte-gouttes. Il y a eu zéro réunion publique. Les deux réunions qui ont été obligatoires, en fait, ça a été d'une part pour les commerçants, d'autre part pour les agriculteurs. Elles n'étaient pas publiques. Après, ils ont délivré des informations au compte-gouttes. Ces histoires de ZME, de zones de matériaux excédentaires, ils le savaient depuis le départ, depuis 2020.
Ça, c'est les montagnes de Remblai.
C'est ça. À l'origine, le projet, c'est qu'il va y avoir un viaduc. Mais à l'origine, il ne devait pas y avoir le viaduc. Tous ces Remblais, ce 1 million de mètres cubes, devaient servir à combler la roudesse. Les lois environnementales se sont durcies entre 90 et 2020. Et donc, du coup, plus le droit de remblayer un cours d'eau. Donc, viaduc. Donc, 1 million de mètres cubes sur les bras. Mais ça, ils le savaient depuis les années 2020. Mais sauf que pour ne pas rassembler les agriculteurs, ils ont préféré les diviser. Donc, ils n'ont pas prévenu les agriculteurs qu'ils allaient avoir du remblai sur leur terrain. Ils les ont prévenus en 2024. Deuxième exemple, le rond-point de l'école du Pertuis. Petit village. En 2017, ils déplacent l'école du Pertuis, qui est au bord de la RN 88. Ils l'excentrent du côté du cimetière. En 2025, on découvre qu'est-ce qu'il va y avoir devant l'école du Pertuis, un échangeur pour que les personnes qui viennent de Saint-Julien-Chapteuil puissent accéder à la RN 88. 3000 à 4000 véhicules par jour vont passer devant l'école du Pertuis. Ils le savaient. Donc en fait, ils se foutent vraiment de la gueule du monde.
Les cartes n'étaient pas à jour dans la première participation du public par voie électronique. Donc on ne voyait pas cette fameuse école sur le tracé. Et dans la dernière, ils ont mis à jour où on voyait l'école apparaître. Ils ont remis à jour les cartes. Ils avaient utilisé des vieilles cartes pour pas qu'on voit qu'il y avait cette école. Ce qui est aberrant, c'est qu'en plus, ils prennent pas en compte du coup l'augmentation des gaz à effet de serre que ça va engendrer et la hausse du bruit. Puisque à proximité d'une école, normalement, il y a des règles. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir respecter ces réglementations qui sont les décibels à proximité d'un lieu public comme une école.
C'est tout à fait juste de dire que c'était parce que le projet, ils l'ont changé par rapport au ruisseau qui n'avait plus le droit de combler. Mais quand on fait un aménagement routier, la première règle à respecter, c'est déblai égale remblai. Ce qui était le cas dans le premier projet. Et du moment qu'il y avait non-utilisation des déblais pour combler ce ravin profond du Roudès, il fallait changer le profil en long et l'augmenter un peu pour que la route soit plus haute et donc on mette ce déblai en remblai pour la route. Et ça n'a pas été fait. Donc maintenant, il y a 23 hectares. On va enlever la terre, soi-disant, dans les champs, dans les prés. On va la mettre de côté. On va amener les remblais et les déblais et on remet la terre du départ dessus et ni vu ni connu. C'est même pas un achat des terrains aux agriculteurs ou aux propriétaires, c'est une mise à disposition temporaire de la région et après, l'agriculteur ou le propriétaire retrouve sa parcelle avec 5-6 mètres de hauteur. Alors, je ne sais pas ce que deviennent les haies, je ne sais pas comment on monte là-haut, pour faire la même culture qu'avant. C'est vraiment prendre les gens pour des idiots quand même.
Mais ils ont commencé les travaux ?
Ils ont commencé là où ça se voyait. Il s'est agi de faire à l'entrée, à l'arrivée du Pertuis, côté Saint-Étienne, ce qui se voyait le plus, c'est ce qu'on voyait surtout de la route actuelle. Pour le reste, il n'a presque rien été fait, sinon du débroussaillage et des coupes de forêt, ce qui est déjà pas rien. Mais il n'y a pas eu de gros travaux lourds de terrassement qui ont été faits. Contrairement à ce que croient beaucoup de gens en disant « c'est parti, on l'a bien vu », eh ben non, ça correspond à moins de 10% des travaux qui vont être réalisés.
Ils ont dégagé les emprises, donc enlevé les arbres et détruit les murets sur des kilomètres et des kilomètres.
Ils ont fait ça quand ?
2021-2022.
C'est relatif par rapport aux travaux qui vont être faits à 500 mètres d'ici, avec des tranchées de 30 mètres de profondeur, quoi. Tout est chamboulé, les sources. Parce qu'il y a eu une seule réunion publique il y a quelques semaines, depuis le début du projet, ce qui est là aussi, c'est un record en France. Un projet de cette envergure, 226 millions d'euros, 10 km de route, sans une seule réunion publique, ça s'est jamais vu. Et ils en ont fait une il y a 2-3 mois, la première. Et là, ils ont dit qu'il y a plein de sources qu'ils ne connaissaient pas, que si on voulait bien, ils faisaient un appel à la population pour leur signaler les sources.
C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des apprentis sorciers parce que vous ne savez pas trop sur quoi vous allez. Effectivement, ils ont attaqué des sources d'eau, mais on ne sait jamais. Il y a dans les villages, même chez des gens, dans les fermes, qui ont peur de leurs sources d'eau. Alors ils disaient, si vous avez un problème, on verra comment on peut vous rétablir la source. Ce n'est pas possible, parce que l'eau, ça s'infiltre, ça circule, ça passe dans des endroits dont on n'imagine pas. C'est quand même très mariole, le problème de l'eau. Et une fois que la source est déviée, pour aller trouver l'origine, c'est un peu être apprenti sorcier que de pouvoir s'attaquer comme ça à des sources d'eau, qui aura plein de sources déviées, plein de gens qui n'auront plus de bacha du jour au lendemain devant chez eux pour pouvoir effectivement utiliser l'eau publique parce qu'elle sera drainée et ça sera perdu, quoi. Sans pouvoir compenser, on ne sait pas d'où elle vient l'eau.
Le futur tracé va impacter plus de lieux-dits, de petits endroits où il y a des gens qui habitent, ils verront eux la route passer sous leurs fenêtres. Ça, ils l'ont bien caché. Le retrait gonflement d'argile, ça, ils n'en ont pas parlé non plus. Par contre, dans la dernière réunion publique, ils leur ont dit, vous prenez bien en photo vos maisons, parce qu'on va tellement bouger de la terre, le sous-sol est argileux, certaines maisons pourraient venir à bouger. Prenez bien en photo pour vos assurances. Mais c'est tout, quoi.
Il y a effectivement très peu de personnes qui habitent sur la route. Par contre, il y a des commerces. Oui. Le bar-restaurant du coin, il va fermer ses portes quand il y aura la déviation de la route. Parce qu'on sait très bien que les commerces vivent de la route, des gens qui passent, qui se garent, qui vont chercher soit du pain, soit les bars-restaurants qui sont en bordure de route déviée, ils tiennent un an, deux ans et après ils ferment leurs portes.
Ils avaient promis aux commerçants qu'ils feraient un village étape à proximité du tracé, en fait, un petit endroit où les commerces pourraient s'implanter pour rester quand même collés à cette nouveau tracé. Mais en fait, dans les dernières réunions et les dernières concertations avec les commerçants, il n'en était plus question déjà.
Ils n'ont pas une possibilité de terrain, ils n'ont pas d'acquisition. Ils disent des choses, mais c'est des paroles en l'air, il n'y a rien de concret. Donc les commerçants sont plutôt relativement inquiets par rapport à ça.
Faire des virées à Toulouse, depuis que t'es là c'est la loose. Tu nous traques pour une bonne baisse, c'est l'autoroute du malaise. T'es relou, ça se fait pas, forcer ça fait du delga. Tu nous l'as fait à l'envers, ton plan 6-9 c'est l'enfer.
Les ennemis, les clients, on comprend que ça te tente. Mais quand on est non, c'est non, consentement c'est pas une option. Ton gros axe, rien à foutre, on préfère mater les loutres. Cueillir des cèpes dans les bois, que de tout raser pour toi. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, et quand on ne sait pas, on garde ses plans pourris pour soi. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, et comme la gare a un grand doute, tu remballes ton autoroute.
Planète Boum Boum, avant de retrouver les opposantes et opposants aux 10 800 km de deux fois deux voies de la RN 88.
Tu remballes ton autoroute.
Comment est-ce que la résistance face à ce grand projet inutile a-t-elle émergé?
Ça a été France Nature Environnement et OTA, l'association des usagers des transports d'Auvergne. Et on a fait une première conférence de presse quelques jours après la déclaration qui a eu lieu dans les médias. Février 2020 et mars 2020, on faisait une déclaration commune entre FNE Haute-Loire et OTA, les usagers des transports, pour dire attention, ce projet est un projet dévastateur et destructeur. Il y a plein d'alternatives possibles. Dans les alternatives, c'est de ne pas être à quatre voies sur la totalité du tracé, ou peut-être pas du tout même. C'est de prévoir des solutions pour les deux bourgs traversés qui effectivement sont pas mal impactés par la circulation. 14 000 véhicules jour, ça paraît beaucoup. Le boulevard du Breuil au Puy, il y a 12 000 véhicules jour en moyenne. Il y a des feux, il y a des passages piétons, des souterrains, etc. Donc là, on pouvait très bien avoir des solutions simples. Pour le Pertuis, on l'a évoqué je ne sais combien de fois, un passage souterrain court de 200-300 mètres pour les camions et tout le transit, les gens qui ne veulent pas s'arrêter au Pertuis, et une possibilité facile d'accès pour ceux qui veulent s'arrêter au Pertuis. Donc on pouvait très bien imaginer une tranchée couverte sur 200-300 mètres, et ça enlevait une grande partie de la circulation du Pertuis, mais ça permettait aux gens de s'arrêter parce qu'ils ont bien l'habitude d'aller chez le salaisonnier, de boire un coup, d'aller à la boulangerie, etc. Et pour le village de Saint-Austien, il était tout à fait possible de faire une déviation courte, là aussi, qui déviait complètement le centre du village et qui passait à côté, ou de revoir tout simplement l'ensemble du tracé pour qu'il soit compatible avec les besoins d'aujourd'hui. Ce qui a été dit aussi, au lieu de laisser des transports en commun entre Le Puy et Saint-Étienne, ou Le Puy Saint-Jean, Le Puy Monistrol, etc., dérisoires par car et par bus, c'est de mettre des horaires de bus et de car, il en partait un du Puy toutes les heures, et qui s'arrêtait tout le long du tracé de la route. Et ça, il y a plein de départements où ça s'est fait, avec des tarifs à 1 euro pour prendre le bus. Mais ça, on s'est bien gardé de le faire. Il y a quelques misérables cars ou bus qui vont du Puy à Issaint-Jean, etc. Mais c'est très, 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 très peu. Et des alternatives sur le rail, il y en a aussi. Certes, la voie ferrée ne passe pas ni à Saint-Austien, ni au Pertuis, ni à Monistrol-sur-Loire, mais elle passe à proximité. Et il peut y avoir des navettes bus entre Issaint-Jean, par exemple, si on prend cet exemple, et Retournac, la gare la plus proche, et aussi rétablir des points de croisement, parce que les tours de force qu'on a fait dans les années 90, c'est d'une part de supprimer des points de croisement, c'est à une voie pour le coup le rail. La voie ferrée est la même que celle qui a été construite dans les années 1880. Donc on pouvait déjà, sans parler de faire deux fois une voie pour le rail, comme à la voûte par exemple, la voûte sur Loire, il y avait un point de croisement qui a été supprimé. Et donc, ça limite le nombre d'allers-retours possibles entre Le Puy et Saint-Étienne à 10 par jour. Parce qu'après, il n'y a pas la possibilité de se croiser. Et puis, il y aurait moins de camions si on avait maintenu les transports de marchandises sur le rail. Et c'est relativement récent que ça a été supprimé. L'essence, par exemple, venait sur le rail dans les années 90-2000. Et ça faisait toujours autant de moins de camions sur les routes. Donc, des alternatives, il y en a des quantités. Et ça, elles n'ont pas été réétudiées en 2020 quand on a refait l'enquête publique pour qu'il y ait une autorisation environnementale. L'autorisation environnementale du préfet, c'est effectivement une autorisation à détruire la nature. Les espèces protégées, principalement les zones humides et tous les lieux qui sont riches sur le tracé. Et on appelle ça autorisation environnementale. C'est une autorisation de destruction de la nature.
France Nature Environnement et OTA, comment s'organise votre lutte?
On est resté deux associations assez peu de temps. La lutte des sucs est arrivée très vite à se constituer en association de fait autonome. C'est la partie active de la lutte contre ce projet démesuré. Après, nous a rejoint SOS Loire Vivante.
On a consacré une émission là avec Roberto Eplé. Dans les années 80, des gens se sont opposé au projet délirant de Jean Royer qui consistait à bétonner la Loire. Et si ça ne s'est pas fait, si aujourd'hui des élus, y compris de droite, peuvent se pavaner sur la Loire, patrimoine mondial de l'humanité, là, 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 c'est parce que des vilains zadistes éco-terroristes, on ne disait pas ça comme ça à l'époque, se sont opposés dans le cadre de ce collectif SOS Loire Vivante.
Et ensuite, nous ont rejoint FNE Auvergne-Rhône-Alpes et l'arrêté du préfet d'autorisation environnementale dans destruction de la nature a été pris fin 2020 et on a déposé un recours avec les quatre associations auprès du tribunal administratif qui a été étudié presque 5 ans plus tard parce que à chaque fois que le tribunal administratif allait programmer une audience pour étudier ce recours, l'État ou la région sortait un nouveau document pour dire non, on a oublié de vous dire ceci, cela, et donc ça renvoyait l'instruction. Et l'instruction a été rouverte 4 fois, de 2021 à 2024.
Ça ne bloquait pas les travaux, c'est ça l'intérêt en fait. Notre recours n'était pas suspensif, juste un petit tour de passe-passe pour gagner du temps.
Charlie, du coup, on va reboucler avec le début, on revient à la lutte des sucs. C'est l'une des composantes de la lutte anti-RN88.
Assez vite, la lutte des sucs s'est créée. Donc, c'est un collectif de personnes. Nous venons de Haute-Loire, principalement, un petit peu de la Loire aussi. Donc, on est actifs sur le terrain avec des actions de sensibilisation. On a fait beaucoup de porte-à-porte au début. Récemment, on a fait encore une enquête pour savoir comment les habitants et habitantes du secteur pratiquaient la RN88, pour en fait comprendre quel est leur lien avec la route et s'ils sont conscients des dégâts que le projet va occasionner, etc. Donc c'était encore un moment d'échange très fructueux avec les riverains et les riveraines du projet. Donc beaucoup d'actions de sensibilisation, des actions festives, des manifestations. On essaye aussi de se réapproprier le territoire, notamment les terrains qui ont été acquis par l'État dans les années 90. Les agriculteurs les ont délaissés parce qu'ils se sont dit que le projet allait se faire, donc ils ne les utilisent plus. Donc par exemple, on a planté des céréales, on a planté des tournesols pour les laisser aux oiseaux, on a planté plusieurs fois des patates. On a eu des bonnes récoltes il y a 2 ans. Cette année, avec la sécheresse, ça va être un peu plus compliqué. Et il y a 2 ans aussi, on a monté un petit troupeau de brebis qui pâturent donc sur les terres du tracé, sur les communaux des villages impactés et auprès aussi des jardins ou des terrains des habitants et habitantes qui veulent bien qu'on aille nettoyer leurs parcelles. C'est une des actions de la lutte des sucs. On a fait des carnavals, on est présent aussi sur les autres luttes en soutien. On a notre stand d'information, on a notre pétition et puis on va à gauche à droite, on va soutenir les copaines dans les Deux-Sèvres ou pour le Notav par exemple. Voilà. Je reviens sur le petit troupeau de brebis. La particularité de ce troupeau, c'est que chaque brebis a été parrainée par une association ou un collectif qui soutient la lutte des sucs, mais qui s'oppose à Wauquiez, qui s'oppose à ce projet monstrueux. Donc c'est très très large. Par exemple, FNE, France Nature Environnement, a parrainé Victoire. Il y a eu beaucoup de cafés associatifs, d'organisations politiques, d'associations de musique. Eh bien, les confédérations paysannes d'Ardèche et de Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, ont aussi parrainé Castagne et comment elle s'appelle Confora. Tout ça pour dire que oui, on a été rejoint par une trentaine d'associations et de collectifs qui sont aussi mobilisés contre ce projet.
Quand vous allez discuter avec les riverains, les riveraines, citoyens, citoyennes, des gens qui n'étaient peut-être pas très sensibilisés, après avoir discuté avec vous, ils en pensent quoi ?
Alors, au début de la lutte des sucs, c'était ultra clivant parce qu'en fait, ce projet, comme on le dit depuis le départ, il est très vieux. Il a divisé énormément les gens. Ça a été déjà une lutte, en fait, dans les années 90-2000, où les gens se sont montés les uns contre les autres. Donc, ça a laissé des blessures. Donc, on n'était pas toujours bien reçus, mais il y avait aussi des gens qui étaient de notre côté, entre guillemets, on va dire. Donc au fur et à mesure, je pense que ça s'est un peu tassé. Alors là, la dernière enquête sociologique, on va dire, globalement, on a toujours été très bien reçus, même si des gens sont pour le projet, en fait. Ils acceptent la discussion. Et un des objectifs, notamment du troupeau de brebis, c'était d'aller à la rencontre de ces gens par une autre voie que la manifestation, par une autre voie que « bonjour, on est la lutte des sucs ». Voilà, c'était emmener une autre approche via l'agriculture. Les brebis sont très sympas, donc les enfants ils sont attirés, les enfants viennent les caresser. Donc ça fait venir les grands-parents, ça fait venir les parents. Et là, on amorce la discussion. Nous, on a toujours discuté très simplement, respecter la vie des uns et des autres. Et même si on ne parle pas forcément du projet, bah, on parle de ce qui tourne autour. Typiquement, un argument ultra rassembleur qui rassemble tous les gens avec qui on a pu parler avec les brebis, c'est l'eau. Et on en revient toujours à ça. Et il y a 2 ans, c'était sécheresse. Et c'est là où on a monté le troupeau. Et là, les gens, ça les a fait cogiter. Parce que de voir le bacha quasiment vide, de voir les sources se tarir, ils se sont vraiment posé des questions, quoi.
Je vais faire appel à mon expérience de touriste, mais en faisant une randonnée il y a 2-3 ans, un village et un monsieur exploitant agricole à la retraite me disait que c'était la première fois de sa vie qu'il voyait la fontaine du village qui ne coulait plus.
Il y en a plusieurs qui disent ça encore cette année. Un autre type d'action quand même de la lutte des sucs, c'est qu'il y a 2 ans, on a fait quand même un grand festival sur des terres qui appartiennent à l'État. C'était et culturel et des conférences sur l'environnement, des concerts. Il y avait aussi une manifestation, mais festive, avec des jeux. On avait appelé ça les enjeux volcano-olympiques. S'en est suivi quand même que des gens sont un petit peu restés sur le terrain et ont défendu les derniers murets qui allaient être détruits et ont bloqué les machines. Donc il y a eu aussi du blocage pacifique. Alors, et avec le troupeau de brebis qu'on a encerclé les machines avec, et avec des gens où les personnes ont opposé leur corps aux machines. Une grande étape de la lutte des sucs, parce que forcément derrière garde à vue, derrière procès, derrière voilà.
Condamnation pour certains, donc la lutte des sucs pour nous, pour FNE43 en tout cas, c'est hyper important parce que c'est des gens qui ont le courage d'aller se mobiliser, d'aller faire front devant les machines et devant les forces de l'ordre.
Ils ont réagi sans violence. Moi qui ai vu ça un petit peu de loin, rien du tout d'agressif, c'était pacifique. Ils ont donné un avis de cette façon, sans violence, et on a répondu par des condamnations, je trouve ça...
On a bloqué, donc c'était une action illégale, certes, mais en fait les illégaux, c'est plutôt les porteurs de projets. Donc il y a eu des actions illégales qui ont été faites, mais quand même légitimes.
C'était en réponse à des actions tout aussi illégales, en fait, là où ils allaient commencer les travaux, ils n'avaient pas les autorisations nécessaires pour détruire ces murets, où la présence d'espèces protégées était avérée... Donc il fallait les autorisations nécessaires, c'était ça le but de l'opposition.
Vous aviez organisé une grande manifestation de sensibilisation pour la Pentecôte.
Oui, ça devait être en 2021, c'était une action organisée avec l'aide des soulèvements de la terre, c'était lors des premières saisons des soulèvements de la terre. Effectivement, on avait occupé un terrain sur Houillon, parce qu'à la fin on avait construit quand même 2 jolies cabanes. Dès la fin de la manifestation, le dimanche à 21h, les machines sont arrivées et ont rasé les 2 cabanes qu'on avait construites.
Il y a eu une manifestation au puits le samedi, tout à fait familiale, bienveillante. Il y avait les parents avec des poussettes et devant la préfecture. On est passé devant une rangée de CRS au coude à coude avec les armes automatiques au poing. C'était de la propagande pour montrer à la population combien on était dangereux, qu'on mettait autant de forces de l'ordre, qui n'ont rien pu faire d'ailleurs, à part rester au coude à coude avec l'arme automatique au poing. Mais ça démontrait à la population que cette lutte des SUC et FNE et OTA et les surveillantes, c'était des gens très dangereux pour qu'on fasse venir autant de policiers.
On ne fait pas exception à toute autre lutte écologique. On est criminalisé. Donc on est scruté, les réseaux sociaux. Au départ, dès qu'on faisait une réunion, on a été fiché, les plaques d'immatriculation étaient prises en photo systématiquement. On fait l'objet d'une surveillance quand même accrue.
Pour cette manifestation de la Pentecôte, les 2 jours d'animation, de concerts, on ne pouvait pas venir à plus d'un kilomètre du lieu. Il y avait des voitures de gendarmerie tout le tour pour montrer qu'on était dangereux parce qu'il n'y avait rien de dangereux. Mais c'est de la propagande, c'est de la communication.
Et du fichage. Et du fichage très bien organisé. Relevé de plaques, contrôle d'identité, fouille des sacs. Parce qu'on est en lutte. On entre en résistance et ça ne plaît pas au pouvoir, en fait.
On a un modèle qui ne plaît pas au pouvoir. On a un modèle anticapitaliste.
Toi, l'écolo, tu l'as t'es infecté. T'as les symptômes, tu es contaminé.
Toi, l'écolo, tu l'as t'es infecté. T'as les symptômes, tu es contaminé.
Les flics s'agitent comme Louis de Funès dès qu'ils connaissent ton nom, ton adresse.
Les flics s'agitent comme Louis de Funès dès qu'ils connaissent ton nom, ton adresse.
Sur le point de vue donc judiciaire, la lutte, elle en est où ?
Au tribunal administratif de Clermont, on s'est fait retoquer, donc on est parti en appel. Là. Pour l'instant, on est dans une procédure d'appel.
Retoquer sur l'intérêt général.
Retoquer sur l'intérêt général, mais c'est le plus important finalement, c'est ce qui nous permettrait de gagner. Quoi. Et donc là, on est dans une procédure d'appel qui va prendre quelques années, et donc maintenant, il faut tenir dans le temps Là, ça va être la cour d'appel de Lyon qui va juger.
Potentiellement en 2026.
Ça veut dire que pendant ce temps-là, la destruction, enfin les travaux, je veux dire, continuent.
Oui, puisque toujours pareil, rien n'est suspensif, même en appel. Si la partie adverse veut amener des éléments nouveaux, elle pourrait reprolonger l'instance, en fait, et le traitement du dossier. Nous, on a remobilisé nos avocats. On a le soutien de notre fédération régionale, FNEORA, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a un service juridique. On a un avocat également, hein, parce que c'est un coût financier. C'est cette force juridique qui nous a permis de constituer un dossier qu'on a mobilisé pour l'appel. Et on espère qu'il sera jugé en 2026.
Tout ça, ça coûte des sous. Les avocats, ça coûte des sous. Ils ne travaillent pas gratuitement.
Les financements sont des dons de tous les gens qui nous soutiennent, des adhérents.
On fait des appels à dons réguliers. On fait des événements pour avoir une caisse de résonance. On a eu récemment Vincent Verza de Partager C'est Sympa, qui a fait une petite vidéo. Il y a eu les naturalistes des terres qui sont venus également pour recenser des espèces sur le tracé, qui ont trouvé des nouvelles espèces qui n'étaient pas dans l'arrêté d'autorisation environnementale. Donc il va peut-être y avoir encore des ralentissements pour la région à ce niveau, puisqu'on trouve des nouvelles espèces protégées. Il y a Greenpeace Auvergne qui nous soutient. On a du soutien, on en a toujours besoin. Sur Internet, appel à don FNE43, vous trouverez comment nous soutenir sur la RN88 en tout cas.
Au-delà de flatter l'ego d'un petit baron du coin, au-delà d'engraisser des marchands de béton et de bitume, il s'agit bien, depuis une perspective de notre chère Europe, de faire des grands couloirs à camions de Gibraltar jusqu'à Rotterdam et de Bordeaux jusqu'à Varsovie ou Budapest. Ce bout de RN88, là, il ne sert pas à faire gagner 3 minutes aux habitants du coin. Quand on regarde votre situation et plein d'autres depuis une perspective européenne, d'un seul coup, on comprend mieux. Pareil pour la 69, c'était pas pour faire plaisir à un marchand de médicaments du coin. C'était pour combler un corridor à camions. Guillaume.
On a délaissé le fret ferroviaire, qui est vraiment une alternative aux camions sur les routes, pour continuer à engraisser ces promoteurs routiers, cette marche en avant forcée là, du tout routier. Quoi. Donc sur le projet de la RN88, on nous vend la fable de la sécurité, du gain de temps, du désenclavement. Comme si nous, on était enclavés ici. Tu peux interroger n'importe qui ici, on ne se sent pas bien enclavé. Mais c'est une fable qui est répétée à longueur de temps par la région et les sbires du seigneur des panneaux pour justifier ce projet. Quoi. Et on se demande s'ils sont dans la réalité, ces gens. On nous dit que nous, on est des utopistes, mais eux, vraiment, je me demande dans quel monde ils vivent. Quoi. Et ça va faire mal parce que tout ce qu'on pourrait entamer aujourd'hui pour essayer de freiner un peu la crise climatique ou en tout cas les dégâts qu'on va tous subir, chaque jour où on ne fait rien, ça va être encore plus dur. Quoi. Et ouais, moi du coup j'ai rejoint France Nature Environnement parce que j'étais en colère de tout ça et je voulais agir à mon niveau parce que pour mes enfants, pour essayer de leur laisser un monde vivable. Quoi. Et aujourd'hui, eux, tout ce qu'ils voient, c'est l'économie. Il n'y a que ça pour eux. Au détriment des habitants, au détriment des générations futures, au détriment de nos paysages, au détriment du territoire et du terroir qui a été défendu par nos anciens, les murets. Ils savaient pourquoi ils faisaient ça, c'était pour les cours d'eau, parce qu'ils savaient vivre avec leur milieu. Aujourd'hui, on a un peu oublié, on est déconnecté de tout ça.
Ce grand projet inutile, là, il est aussi au détriment de l'économie. Ouais. Comment on va faire du lait, du fromage, du beurre quand il n'y aura plus d'eau? Comment on va irriguer des cultures quand il n'y aura plus d'eau?
Une des fables de la croissance infinie.
C'est complètement faux de dire qu'on va résoudre ce petit problème sur la RN88 de Lyon à Toulouse. À la sortie du puits jusqu'à Rodez, il n'y a pratiquement rien qui est fait. Donc ce n'est pas les 10,8 km d'ailleurs de la route actuelle et non pas 10. Donc on est bien dans autre chose. Il suffit de regarder les dates où ça a été promulgué. Tout premier commencement des travaux, c'était 2021, campagne des régionales. Et il fallait qu'avant le mois de mars ou le mois de juin, on ait fait des annonces qui se voient sur quelqu'un qui est tout puissant et qui veut réaliser cette route parce que ça va lui servir au plan politique-politicienne.
C'est pas pour rien qu'on l'appelle la route invoquée.
Ce qui est grave aussi, c'est qu'on ne fait rien sur les alternatives. RN88 du Puy à Saint-Étienne, des bus toutes les heures ou toutes les demi-heures s'il le faut, on enlèverait la moitié des voitures si on a un service réel de car. Aujourd'hui, on ne sait pas quand, il n'y en a pratiquement pas d'ailleurs. Si les gens pouvaient se déplacer avec un départ du Puy et avec toutes les stations tout le long, eh ben, les gens qui habitent le Pertuis, et on en connaît, qui travaillent à Monistrol, ils prendraient le bus au Pertuis, c'est évident.
On veut se débarrasser de la voiture en vrai, mais dans les milieux ruraux comme le nôtre, sans voiture, on ne fait rien aujourd'hui. Mais si on mettait les moyens, bah les gens ils prendraient ces transports communs. Toutes les alternatives qu'on propose depuis 2020, s'ils avaient commencé à les mettre en place, à les faire en 2020, aujourd'hui les habitants, eh bah, ils seraient déjà tranquilles. Là, avec l'entêtement de la région et le nôtre, bah, du coup, oui, tout le monde paye un peu les pots cassés, il y a des retards, et le projet, on ne sait pas quand il va voir le jour. Hein. Alors qu'avec les alternatives, si on avait mis tout le monde autour de la table, parce qu'on n'a jamais été reçu, on ne nous a jamais écouté sur nos alternatives, si on avait fait consensus, il y aurait eu une déviation pour tout le monde.
Par rapport au transport en commun, moi je connais des quantités de personnes âgées ou des personnes qui sont malvoyantes, qui seraient très contentes d'avoir des transports en commun, parce qu'on va très souvent au puits pour le médical, pour le laboratoire, pour les courses. Et c'est d'autant plus embêtant qu'on fait partie de la communauté de communes du Puy. Il y a des transports en commun qui existent, mais ils s'arrêtent à Blavozy. Je trouve ça aussi embêtant, puisqu'on fait partie de la communauté de communes et qu'on paye en conséquence les charges. S'ils venaient jusque-là, c'est-à-dire quelques kilomètres de plus par rapport à Blavozy, ça serait quand même un bénéfice pour les habitants.
Je regardais, là, il y a 2 bus par jour depuis Aïssaint-Jean. Il faut, comme tu dis, que les gens puissent avoir des départs toutes les heures, toutes les demi-heures. Et là, ils les prendront, sinon ils ne les prendront pas. Les habitants de Haute-Loire sont maintenus dans un état de dépendance à l'automobile quasi absolu, faute d'alternative.
Si on mettait en place des bus réguliers, c'est un investissement d'1 million d'euros par an. Le fret ferroviaire, si on faisait les aménagements où on met 3 allers-retours supplémentaires entre Saint-Étienne et le Puy, c'est 16 millions d'euros. On a chiffré nos alternatives et on arrive à un coût bien moindre que celui annoncé par la région en 2019 de 226 millions d'euros, qui, je le rappelle, va plutôt osciller vers les 500 millions, je pense. Ça aurait pu être mis en place, ça coûtait moins cher. L'argent en plus, on en faisait autre chose. On a besoin pour d'autres services dans notre département. Hein.
Ce qui est incroyable aussi, c'est que la loi a confié aux régions la responsabilité des transports publics et pas la responsabilité de la construction des routes nationales. Donc ils font ça en dehors de leur mission et ils n'assurent pas leur mission par rapport au transport public, que ce soit sur la route avec les cars ou les bus ou sur le rail, qui est même plus bas qu'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. On met plus de temps aujourd'hui en train pour aller à Lyon qu'il y a 50 ans parce qu'il y avait des directs. Et comme il n'y a plus suffisamment de points de croisement, il n'y a plus de directs, on met plus de temps pour aller à Saint-Étienne ou à Lyon depuis qu'il y a 50 ans. Oui. Donc la région ne réalise pas ses missions. On aurait pu peut-être gagner un peu de temps si on n'avait pas supprimé les points de croisement ou si on avait créé d'autres, ou créé une deuxième voie pour aller du Puy à Lyon.
Par rapport aux alternatives à cette fameuse réunion, j'avais posé la question de pourquoi vous n'avez pas étudié les alternatives compte tenu que ce projet est extrêmement polémique. Le responsable de la région m'avait répondu clairement, ils n'ont pas du tout étudié le projet parce que ça aurait créé des nuisances ailleurs. Ça m'a laissé vraiment les nuisances qu'on peut créer quand on entaille une montagne à 20 mètres. Ça valait peut-être le coup de se pencher à étudier ces alternatives. Et ils l'ont dit clairement.
Donc ça veut dire que les nuisances, c'est pour vous.
Voilà.
C'est surtout que la déclaration d'utilité publique a été décidée en 1997. Si en 2019-2020, on avait voulu faire une nouvelle déclaration d'utilité publique, comme ça aurait été nécessaire pour tenir compte de toutes ces évolutions sociétales, ça ne passait pas du tout. Donc il fallait surtout pas toucher à la première. Et le seigneur tout-puissant de la région voulait absolument que son projet aboutisse. Donc il fallait pas remettre en question la DUP de 1997.
Bon, on parle beaucoup de nos alternatives, mais il suffit d'aller sur Internet, itinéraire-bis-RN88. Et on trouvera les alternatives qu'on a co-construites avec Greenpeace, avec OTA, donc l'Association des usagers des transports d'Auvergne, FNE 43 et FNE Aura, co-réalisé aussi avec un urbaniste. On a interrogé un urbaniste, on a interrogé les syndicats de cheminots, enfin pour avoir des chiffres réels. On n'a pas fait ça en amateur. On a proposé une alternative réelle, tangible, chiffrable, démontrable.
Nos macadam et rendez-vous sur les sites de la Lutte des Sucs et aussi de France Nature Environnement 43 pour plus d'informations et pour les soutenir financièrement, notamment pour les frais d'avocat. Vous pouvez télécharger ce reportage via notre site polemix-et-la-voix-off.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée. Ce n'est qu'un combat, continuons le début, salut.